Radio Prague, les informations. Bonjour, la coalition gouvernementale a résisté à la motion de censure. La Cour constitutionnelle a invalidé les modifications de l'épargne logement. Et puis en sport, l'équipe de République tchèque de hockey sur glace affronte ce mercredi soir le Canada pour son dernier match de préparation avant le début du mondial. On commence donc avec de la politique. Comme en décembre dernier, la coalition gouvernementale tripartite de centre-droit dirigée par Petr Nečas a résisté au vote sur la motion de censure qui s'est tenue mardi à la Chambre des députés. Ce vote était initié par le Parti social-démocrate. Sans surprise, les députés des trois partis de la coalition ont exprimé leur confiance au gouvernement, à l'exception de trois anciens membres du groupe parlementaire des affaires publiques. Les sociaux-démocrates et les communistes, les deux partis de l'opposition, ne sont parvenus à rassembler que 84 suffrages en faveur de l'adoption de la motion de censure, alors qu'un minimum de 101 voix était nécessaire pour renverser le gouvernement. Plus de détails sur le sujet dans quelques instants dans nos faits événements. La Cour constitutionnelle a invalidé les modifications restrictives du système d'épargne logement adopté par le gouvernement. Les juges ont donné raison à la plainte adressée par un groupe de 45 députés sur une initiative du Parti social-démocrate. La coalition gouvernementale avait justifié ces restrictions par le besoin urgent de réduire le déficit du budget de l'État. Selon le ministre des Finances, Miroslav Kalousek, la décision de la Cour constitutionnelle devrait avoir pour conséquence une augmentation du déficit des finances publiques de 6 milliards de couronnes, soit environ 240 millions d'euros rien que pour cette année. La décision rendue par la Cour constitutionnelle a été saluée par l'Association des caisses d'épargne logement, mais critiquée en revanche par le président de la République, Václav Klaus. Économie, le taux de croissance de l'économie tchèque devrait s'élever à 2% cette année. Tel est le principal enseignement qui ressort des résultats de la dernière étude du ministère des Finances. Ces résultats sont établis sur la base des pronostics formulés par 19 institutions spécialisées locales. En 2012, le taux de croissance du PIB devrait s'élever à 2,8%, puis progresser jusqu'à 3,3% à l'horizon 2014. Le nombre de véhicules particuliers immatriculés à Prague a augmenté de plus de 16 000 au cours de l'année 2010. Au total, près de 700 000 voitures sont donc déclarées sur le territoire de la capitale tchèque, soit un rapport d'une voiture pour 1,8 habitants. Les chiffres ont été communiqués ce mercredi par l'administration technique des communications. Par ailleurs, le nombre total de véhicules à moteur a également augmenté et s'élève désormais à près de 930 000. Le taux d'occupation des véhicules a lui cependant diminué. Seuls 1,3 passagers en moyenne se trouvaient à bord, notamment lors de leurs déplacements journaliers entre domicile et lieu de travail. Les conducteurs pragois sont souvent seuls dans leur véhicule. Culture, le Festival international des musiciens handicapés a ouvert ses portes ce mercredi à Strakonice, en Bohême de l'Ouest. Intitulé Self Caritas, Self Vita, le festival a attiré environ 200 musiciens handicapés, physiquement ou mentalement. Une vingtaine d'ensembles de République tchèque, de Pologne, de Macédoine et de Bulgarie y participent. Le festival refermera ses portes vendredi. On passe au sport. L'équipe de République tchèque de hockey sur glace reçoit le Canada ce mercredi soir à Prague pour son dernier match de préparation avant le début du championnat du monde en Slovaquie vendredi. Pour ce match, les Tchèques disposeront de la plupart de leurs joueurs vedettes actuellement disponibles, avec parmi eux notamment le légendaire Jaromír Jágr. En Slovaquie, la République tchèque défendra son titre de champion du monde décroché l'année dernière en Allemagne. Pour son premier match de groupe samedi à Bratislava, les Tchèques affronteront la Lettonie. On termine avec un mot de météo. C'est un temps essentiellement nuageux et même pluvieux par endroits qui continue de régner sur l'ensemble du territoire ce jeudi, jour de la fête des Vlastislaves. Aucune évolution notable n'est prévue pour la fin de la semaine. Les températures varient entre 17 et 21 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention, merci également de rester en notre compagnie et celle de Václav Richter que vous retrouvez tout de suite. Faits et événements en République tchèque.
L'opposition n'a pas réussi à faire chuter le cabinet du Premier ministre Petr Nečas. Le Clementinum, grand ensemble d'édifices baroques au centre de Prague, qui abrite la Bibliothèque nationale tchèque, sera complètement restauré, modernisé. La suite de notre émission sera réservée à la rubrique Chapitre de l'Histoire. Jaroslava Gisibloa vous invitera à une exposition sur la synagogue baroque, témoin de l'histoire de la communauté juive sur le territoire tchèque. Tels sont les thèmes de la première partie de notre émission préparée par la section française de Radio Prague et présentée aujourd'hui par Václav Richter. Merci de rester avec nous. Comme il fallait s'y attendre, le gouvernement du Premier ministre Peter Nečas a résisté dans la soirée de mardi au vote d'une motion de censure à la Chambre des députés. Les observateurs sont cependant quasi unanimes à constater que la coalition gouvernementale tchèque manque de cohésion et que sa survie n'est pas vraiment assurée. C'est après un débat de 8 heures que les députés ont finalement procédé au vote d'une motion de censure contre le cabinet composé de 3 partis de la coalition, le parti civique démocrate ODS, le parti Top 09 et le parti Affaires publiques. Les députés de l'opposition ont profité de cette occasion pour critiquer fermement devant les caméras de télévision la politique du gouvernement actuel, les réformes qu'il réalise et les scandales qu'il avait éclaboussés. L'opposition n'a pas su réunir cependant les 101 voix nécessaires pour pouvoir renverser le gouvernement, car le Parti social-démocrate et le Parti communiste ne disposaient que de 81 voix. S'y sont joints encore les anciens membres du groupe de députés et d'affaires publiques, Kristina Kocsi, Jaroslav Škarka et Stanislav Huml, mais c'était toujours insuffisant car la coalition a été finalement soutenue par 114 voix. En votant, le député Daniel Korte du parti Top 09 a tenté de ridiculiser la cérémonie en chantant. Je vote contre le projet, a-t-il chanté dans le micro de la Chambre des députés, et sa voix a été reconnue valable malgré les protestations de l'opposition. À l'issue du vote, le Premier ministre Petr Nečas a manifesté sa satisfaction.
Je suis content que la coalition gouvernementale ait pris une attitude responsable et respecté les accords conclus. Et je suis surtout content que tous les hommes politiques de la coalition aient mis l'accent dans leur déclaration sur la nécessité des réformes. Cela veut dire que la justification de l'existence de ce gouvernement réside dans la réalisation des réformes et non pas dans le fait que les membres de la coalition occupent les postes gouvernementaux.
Cette manifestation de l'unité de la coalition gouvernementale risque cependant d'être de courte durée. Selon le Premier ministre, le récent remaniement de son cabinet n'est pas suffisant et il faudra procéder encore à d'autres changements qui se heurteront probablement à la résistance des partenaires de la coalition. Déjà à l'issue du vote à la Chambre, le parti Affaires publiques a laissé entendre que son soutien au gouvernement actuel n'est que temporaire et qu'il pourrait finir. Selon le député Peter Skokan, si les réformes fondamentales ne sont pas réalisées avant juin prochain et si le cabinet n'est pas remanié une fois de plus pour satisfaire son parti, Peter Nečas ne pourra pas compter sur le soutien d'Affaires publiques.
Nous nous sommes engagés dans ce gouvernement pour réaliser certains objectifs qui s'accordent aux objectifs de nos partenaires de la coalition. Néanmoins, s'il s'avère que ce projet n'est pas basé sur un véritable partenariat ou que nos objectifs ne sont pas réalisés, nous mettrons fin à cette coopération.
Dans cette situation, l'opposition ne se considère donc pas convaincue. Le chef de la social-démocratie, Bohuslav Sobotka, ne regrette pas d'avoir déposé une motion de censure à la Chambre.
Malheureusement, aujourd'hui, la social-démocratie n'a pas atteint son objectif, qui était de renverser le cabinet de Petr Nečas et d'arrêter les réformes injustes qu'il réalise. Je suis pourtant convaincu qu'il fallait bien procéder au vote de motion de censure, car il était nécessaire de montrer les problèmes graves pour la société tchèque et pour le fonctionnement de la démocratie, problèmes dus à l'activité ou à l'inactivité du Premier ministre et des membres de son cabinet.
Une nouvelle preuve attend le gouvernement actuel encore avant les vacances. Petr Nečas entend lier l'adoption des lois sur la réforme par la Chambre des députés au vote d'une motion de soutien à son cabinet. La Bibliothèque nationale de République tchèque, Národní knihovna České republiky, traverse une période de revitalisation et de modernisation. Sous l'impulsion de son nouveau directeur, Tomáš Böhm, la plus vieille des bibliothèques tchèques veut devenir une institution ouverte et digitale, plus accessible au public. Cet objectif passe d'abord par la rénovation du bâtiment historique qui l'accueille, l'ancien collège jésuite Clementinum, Clementinum en tchèque, situé dans le quartier de la vieille ville à Prague. Ces changements ne sont pas sans susciter quelques critiques, notamment sur le coût des travaux. Pierre Maignan.
Le bâtiment Clementinum peut s'enorgueillir d'une déjà longue histoire derrière lui. Au XIe siècle, il y est fondé une chapelle dédiée à Saint Clément. À partir de 1227, un couvent dominicain s'y installe, lequel devient près de trois siècles plus tard, en 1556, dans le contexte du Concile de Trente visant à revitaliser l'Église catholique face à la réforme protestante, un collège jésuite. Après la dissolution de leur ordre en 1773, le bâtiment accueille la bibliothèque universitaire impériale et royale. C'est aujourd'hui la bibliothèque nationale qui y est établie et qu'il s'agit de redynamiser. L'ouverture à un public élargi est la priorité. À cette fin, le bâtiment sera divisé en plusieurs zones qui devraient permettre une circulation plus libre d'un public qui n'aura pas toujours besoin d'une carte d'abonnement pour accéder à certaines d'entre elles. La construction d'un parking souterrain est également à l'ordre du jour. Autre point important, les capacités de stockage de la bibliothèque arrivaient à saturation. Pour résoudre ce problème d'espace, un dépôt pour les archives doit être édifié à Hostivarge. Les travaux entrepris en avril dernier devraient s'échelonner jusqu'en 2016. Seulement, un certain nombre de critiques se sont fait entendre. Le coût des travaux, d'abord, suscite parfois des rancœurs. Ainsi, la reconstruction du bâtiment Clementinum nécessite à lui seul la mobilisation d'environ 2 milliards de couronnes. À cette dépense, il faut ajouter 1 milliard de couronnes destinées au nouveau dépôt d'Hostivarge, le tout pour un total d'environ 120 millions d'euros. L'ouverture de la bibliothèque sur la rue Platnéchka est un autre point de tension. En effet, pour l'Institut national du patrimoine, la construction d'une nouvelle entrée risquait de dénaturer le monument. L'institution s'est plainte de ne pas avoir pu donner son avis avant le début des travaux. Tomáš Böhm, le directeur de la Bibliothèque nationale, répond aujourd'hui à ces critiques et tente de calmer les esprits.
My jsme rozhodně nepřistoupili na to, co bylo navrhováno v minulosti. To znamená s tím probouráním velkého...
Nous nous sommes fermement opposés à la proposition présente dans l'ancien plan et qui signifiait ouvrir un large espace sur la rue Platnéchka. Actuellement, nous projetons seulement d'ouvrir des accès pour la logistique vers les parkings des premiers et seconds sous-sols, ce qui en aucun cas ne dénature la façade du Clementinum. Et avec l'Office du patrimoine, nous sommes d'accord là-dessus.
Clementina a s památkáři v tomto jsme v souladu.
À la fin des travaux, la bibliothèque devrait accueillir une galerie et un café de style, une salle de congrès et un espace d'études. Elle est en parallèle engagée dans la numérisation de près de 4 millions de documents en partenariat avec Google. Avec l'ouverture à David C. en 2009 de la Bibliothèque Technique Nationale, il s'agit réellement d'une importante étape de modernisation des bibliothèques de Prague.
Vous êtes toujours sur Radio Prague, émission en langue française. L'histoire des synagogues est au cœur d'une exposition proposée depuis le 3 mars par la galerie Gutmann à Prague. Intitulée « Synagogues baroques dans les pays tchèques », l'exposition découvre la destinée de ces constructions depuis le 15e jusqu'au 20e siècle. Des centaines de synagogues ont été vouées à l'abandon, 71 détruites pendant la guerre, plus d'une centaine ont disparu sous le régime communiste. Le projet documente le passé et le présent de 23 synagogues baroques qui ont été restaurées après 1989 grâce aux soins des communautés juives tchèques et moraves auxquelles elles ont été restituées. Jaroslava Gisiblova s'est entretenue avec Arno Pajic, commissaire de l'exposition.
Chapitre de l'histoire.
Pour Arno Pajic, c'est la première fois dans l'histoire qu'un investissement aussi important est placé dans le projet de réhabilitation des synagogues. Sous la notion de synagogue baroque, qui est l'intitulé de l'exposition, on imagine le plus souvent des synagogues polonaises, richement décorées, ou la fameuse synagogue portugaise d'Amsterdam, qui a servi de point de départ à l'architecture synagogale en Europe. Or, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, les synagogues se sont multipliées également en Bohême et en Moravie. Une carte à l'entrée de l'exposition montre environ 300 localités dont il est prouvé que des synagogues ainsi que des communautés juives se trouvaient sur leur territoire, comme l'explique Arno Pažík.
Toutes les communautés juives n'ont en effet pas pu posséder leur propre synagogue. Souvent, elles n'ont pas reçu l'autorisation des autorités ecclésiastiques. Les synagogues qui sont documentées dans cette exposition sont toutes inscrites sur le plan cadastral datant du XIXe siècle. D'autres, disparues à la fin du XIXe siècle ou dans les années 1930, ont été saisies sur des photographies d'époque. Parfois, seuls les plans d'aménagement d'origine des synagogues ont été sauvegardés, ce qui est tout aussi précieux.
À la campagne, la plupart des synagogues étaient des synagogues de bois, aujourd'hui inexistantes, à part les 23 synagogues baroques préservées et présentées dans la galerie Gutmann. Il existe d'autres synagogues, 25 ou 30, transformées au fil du temps en logements ou désaffectées au point qu'il n'est plus possible de les réhabiliter dans leur état d'origine. Ces 23 synagogues sont un témoin de l'histoire qui fournit un regard sur le passé et la vie des communautés juives dans notre pays, ainsi que le raconte Arno Pažík.
Car les synagogues ont été un important centre de la communauté juive, pas seulement le lieu du culte et des offices, mais aussi un lieu de rencontre où la communauté se réunissait, où des fêtes, des mariages, des naissances, des circoncisions et d'autres événements communautaires étaient célébrés. En même temps, c'était le lieu de représentation personnelle. En témoignent des objets de culte qui faisaient partie de chaque synagogue et qui portent tous une dédicace. C'est une spécificité de ces objets. Ces dédicaces nous disent par qui ou à qui ces objets ont été offerts, par exemple à l'occasion de la naissance d'un enfant, à des fins de guérison ou de secours.
Les synagogues préservées ainsi que les objets de culte provenant des synagogues disparues sont une source de connaissances précieuses et une occasion unique pour notre génération de découvrir le passé. C'est le cas des synagogues peintes qui constituent la partie la plus précieuse du patrimoine juif. Arno Pažík en parle plus en détail.
Les synagogues peintes se trouvent en grand nombre, notamment en Moravie, à Boskovice, Holešov, Třebíč, Dolní Kounice et partiellement aussi en Bohême. Les plus précieuses sont les synagogues à quatre colonnes intérieures, ce qui est la manifestation la plus originale de l'architecture synagogale dans l'histoire qui apparaît au milieu du XVIIe siècle en Galicie, en Pologne de l'Est et en Ukraine occidentale. Ces structures architectoniques correspondent à la base même du culte, à savoir la lecture de la Torah. L'endroit surélevé en forme de dais, appelé baldaquin pour pupitre de Torah, repose sur des supports verticaux, en général au nombre de quatre. Ce principe est mis en valeur lors de la construction de grandes synagogues des communautés est-européennes jusqu'au début du XXe siècle.
Le style baroque a beaucoup influencé la forme des objets de culte juifs, textiles et argent, en premier lieu. Le baroque a influé sur l'architecture des synagogues, sur leur décoration et leur aménagement intérieur. À part les grandes synagogues pragoises de style baroque précoce, comme la synagogue Klaus, érigée en 1694, la synagogue Nova, construite en 1703 et démolie en 1898, ou la synagogue Tzik,
Tikhanova, élevée en 1701 et détruite en 1906, des synagogues à quatre colonnes sont élevées également à Kolyn ou à Polna. L'association de mots synagogue baroque suscite l'étonnement. On se demande qu'est-ce qu'il y a de commun entre le baroque et les juifs, observe Arnaud Pagic.
Baroque, to byl oficiální církevní propagační.
Le baroque est la doctrine de propagation officielle de l'Église catholique assez offensive liée à une série d'actes hostiles aux juifs. Rappelons le cas de Simon Abeles, juif pragois, converti en jésuite et inhumé à Notre-Dame de Tine, et le procès contre ses prétendus assassins qui seraient ses proches. Les jésuites ont alors joué un rôle très actif dans ce procès. Rappelons ensuite la tentative de l'État de contrôler et de limiter de façon drastique l'importance de la population juive au sein de la monarchie habsbourgeoise. La loi dite des familles, adoptée au début du XVIIIe siècle, est restée en vigueur jusqu'en 1948. De même, le décret dit de translocation de 1726 stipule le déménagement des juifs à la périphérie des villes, la démolition des synagogues et leur construction à un autre endroit, dans la banlieue des communes, afin que leur existence ne perturbe pas le déroulement des processions et des fêtes de la religion officielle.
Comme le souligne dans ce contexte le commissaire de l'exposition, la situation à Bohême a été toutefois différente de celle de la Moravie.
En Moravie, et c'est très intéressant, la double expulsion des Juifs ne s'est pas manifestée. La noblesse morave, forte et autonome, a protégé ces Juifs en sorte que les problèmes de déménagement qu'a connu la Bohème n'ont pas concerné la Moravie. Les familles nobles moraves comme les Kaunitz, les Dietrichstein et autres étaient plus proches de Vienne et les restrictions ne les touchaient pas de si près. Depuis déjà le XVIe siècle, les communautés juives installées dans les petites villes seigneuriales moraves vivaient dans un milieu relativement stable et économiquement favorable.
Le plus grand nombre de synagogues sauvegardées ont été érigées après 1850 et symbolisent la nouvelle étape dans la vie des Juifs après leur émancipation. Y a-t-il quelque chose de typique pour le style baroque des synagogues élevées en Bohême et en Moravie? Voilà la dernière question posée pour conclure à Arnaud Pagic.
De même que dans toutes les périodes de l'histoire, les synagogues qui ont fait leur apparition déjà en Babylonie et avant le début de notre ère en terre d'Israël et qui se sont multipliées ici jusqu'au 7e siècle, étaient construites dans le style courant de l'époque, même si ce n'est pas l'entière vérité. Le facteur déterminant pour chaque type de construction, c'est le principe du culte, la lecture de la Torah, avec le pupitre au milieu et les hommes assis autour. Au XVIIe siècle, en Pologne, un nouveau type de décoration des synagogues voit le jour. Dans ce système, il n'y a pas de représentation d'hommes et de légendes. Les synagogues sont ornées d'un plafond à la décoration florale et animale. Il y a des fleurs et des fruits de la terre sainte en tant que glorification du Créateur et de l'existence du monde. Ces motifs sont concentrés sur les plafonds et les voûtes, alors que sur les murs sont inscrit les textes des prières en forme de livre ouvert. Ces décorations par les textes de prières hébraïques prouvent que c'est la parole, le principal élément de décoration, et ainsi toute la culture millénaire y est préservée dans la même forme qui avait existé au temple.
« Les Juifs seraient arrivés en Bohême après la destruction du temple de Jérusalem. L'ancien ghetto de Prague, compris entre les rues bornant l'actuelle place de la vieille ville et les quais de la rivière Vltava, était l'un des plus anciens d'Europe centrale. L'existence d'une communauté juive à Prague est mentionnée déjà en 965 dans un récit de voyage rédigé par Ibrahim ibn Yaqob, marchand juif envoyé à Prague de Tortosa en Espagne. Cette première colonie a été installée au pied du château de Hradčany. Une autre s'est aussi implantée vers 1090 près de Vyšehrad. Au XIIe siècle, apparaît une troisième colonie à proximité de la place de la vieille ville, et c'est celle-ci qui forme aujourd'hui la fameuse cité juive pragoise, baptisée Josefov en 1850. L'exposition synagogue baroque dans les pays tchèques est à voir dans la galerie Gutmann à Prague jusqu'à la fin du mois d'août.
Fin de ce tour d'horizon de l'actualité tchèque préparé pour vous par la section française de Radio Prague.